Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel et j'accompagne avec enthousiasme des sportifs amateurs dans la réussite de leur projet d'endurance depuis plus de 10 ans. Du 10 km à l'Ultra Trail en passant par le Marathon ou la Spartan Race. J'ai également été membre du staff de l'équipe de France de ski nordique de 2013 à 2023 et eu la chance d'être olympien 3 fois. Pour terminer, je suis auteur du livre La prépa physique de l'endurance disponible sur prépa-endurance.com. Le sujet me passionne et c'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je reçois coach, préparateur physique, kiné, sportif pour parler autour de ce vaste et passionnant sujet. L'esprit de ce podcast est de rendre l'information simple et accessible à tous. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Endurance 30. Alors cet épisode est le premier d'une série de capsules qu'on va faire avec Gilles. Gilles qui est à la fois un ami et une personne que je coach. On va le suivre un petit peu dans sa préparation pour la TDS qui a lieu au mois d'août 2024, donc de cette année, avec l'objectif un petit peu, c'est de dire comment un sportif amateur qui a des grosses contraintes arrive à s'organiser pour préparer un ultra trail. Donc Gilles, je te laisse présenter la TDS pardon, et te présenter toi aussi.
Donc bonjour à tous, moi c'est Gilles, comme Nicolas dit, on se connaît depuis qu'on est tout petit. On avait déjà fait un podcast suite à l'UTMB que j'ai fait en 2021, j'avais prévu de refaire l'UTMB cette année, et on avait parlé de ce podcast, mais vu que j'ai pas été pris au tirage au sort, on se rabat sur la TDS, donc voilà, on va faire ça tranquillement. Voir un peu, du coup, depuis qu'il me coach, je pense que je vais pouvoir raconter un peu ces exercices de sorcellerie.
Ouais. Du coup, il va pouvoir dire si faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Mais je pense que ça sera pas quand même ça. Et juste la TDS, la plupart des gens connaissent, mais rappelle dans les grandes lignes ce que c'est.
Donc, c'est une course qui, comme j'ai dit tout à l'heure, fait partie du week-end de l'UTMB. Donc, c'est une course de 140 km avec, je crois, 8 ou 9 000 de dénivelé. Donc, qui se fait en début de semaine. Du coup, c'est une course un peu moins contraignante s'y inscrire. Il n'y a pas de tirage au sort. Voilà, je suis au tirage au sort négatif. C'était facile de se rabattre là-dessus. C'était la même semaine. Donc, ça ne changeait pas trop la préparation.
On y reviendra justement. Et c'est une course aussi où tu vas courir de jour, de nuit, peut-être sous la neige, sous la pluie, sous la canicule.
Ouais, c'est une course qui part de nuit. Le départ est à minuit moins 5 le lundi soir. Donc voilà, première partie de nuit. Puis je pense que je vais arriver le petit matin, pas le lundi, le mercredi du coup. Hein. Je pense que ça va se faire sur 3 journées. Sur 3 journées,
ouais. Ok. Et puis, avant de rentrer un petit peu dans la prépa et un peu tout ça, donne-nous un petit peu pour les gens tes contraintes en termes de travail, d'horaire, de jours d'entraînement.
Du coup, moi, je suis pharmacien, donc je travaille grosso modo 5 ou 6 jours sur 7, avec quand même un peu de temps dans la pause de midi et 2 une bonne pause de midi et 2, entre midi et 15 en gros, donc c'est souvent là que je cale mes entraînements. Et sinon, ouais, les sorties longues, le week-end, le samedi ou le dimanche, en fonction aussi des obligations familiales, parce que j'ai 2 enfants, donc il y a une épouse qui veut aussi un peu profiter de son mari, donc voilà, il faut essayer de caler un peu tout ça, donc en plus du temps assez serré.
Et une épouse qui est en train de préparer le marathon de Genève aussi, donc qui s'entraîne aussi, justement.
Exactement, donc faut jongler les sorties longues, d'un le matin à l'après-midi.
Non. Ok. Et puis j'allais y venir justement. C'est vrai que l'objectif, comme pas beaucoup, enfin si beaucoup de gens quand même, c'est l'UTMB ou les courses UTMB où il y a le tirage au sort. Il y a eu cette annulation de fête. T'as pas mal, enfin cette annulation, ce non tirage au sort. T'as aussi, on avait prévu de faire la tranche jurassienne en ski qui a été annulée. Donc 2024 est pour toi sous le signe de l'annulation ou du report de projet. Et comment tu t'as pris un petit peu les choses?
Ouais, la transvue, on commence à s'habituer parce que là, ça fait plus de 10 ans, voire plus que ouais, ça fait même 14 ans que je m'inscris tous les ans. Il y a quand même déjà eu 4 ou 5 annulations, donc sans parler des parcours de repli. Donc, ça, on sait au début d'année que voilà, ça se fait si ça veut bien aller. Je pense que ça va pas aller en s'arrangeant avec le manque de neige. Et puis bon le UTMB, j'étais un peu déçu parce que j'avais quand même pas mal de running stone, donc de chance au tirage au sort, puis donc Ça m'a un peu saoulé parce que j'ai quand même bien envie de refaire le TMB. Donc, ouais, je me dis qu'il va falloir que je me relance dans le projet l'an prochain. Donc, ouais, j'aurais bien aimé le faire cette année. Mais bon, c'est pas grave, c'est des projets à long terme. Donc, ça me permet aussi de faire d'autres choses et puis de refaire des courses qu'on n'a jamais fait, quoi.
Ok. Et justement, une petite parenthèse, la tranche jurassienne, vous étiez plusieurs dans le cas, or le double projet de préparer du trail et la course et la tranche du quand même. Donc c'est vrai qu'on a aussi dû s'adapter avec le manque de neige, et notamment toi ou les gens qui pratiquent, entre prévoir de la course à pied, prévoir du ski sans savoir si ça aura lieu. Et toi, tu as vécu ça comment, cette adaptation?
Ah, moi je suis plutôt du genre, tant qu'on peut skier, c'est skier et pas trop courir tant qu'il y a de la neige, parce que c'est un peu chez nous, c'est vite pénible de courir quand il y a de la neige, parce que tu es obligé de faire ça sur la route, parce que sinon, quand il y a de la neige, c'est vite impraticable ou trop compliqué. Donc, ouais, non, je jongle entre le ski et la course à pied en fonction des conditions. Donc moi c'est pas vraiment un problème, c'est juste oui, j'ai repris là, j'ai plus de kilomètres de course à pied que les années d'avant du manque de neige, mais sinon niveau volume d'entraînement, je pense que ça change pas grand-chose, peut-être un peu moins parce qu'en ski on va quand même un peu plus longtemps quand même qu'en course à pied, mais sinon niveau nombre de séances, je pense que c'est pareil.
Oui, j'ai regardé justement janvier 41 heures d'entraînement, 31 séances dont 8 de course à pied, et février 21 heures, 21 séances dont 17 de course à pied, et là sur mars on sera à 30 séances dont 19 de course à pied à peu près, ça se finit bientôt. Et on va dans ces petites capsules en fait, on va regarder le mois d'entraînement passé, savoir un petit peu revenir dessus pour que les gens regardent comment tu t'organises et comment tu t'entraînes. Juste avant, une petite parenthèse, donc avant le mois de mars qui se termine bientôt, sur janvier-février, tu peux nous dire dans les grandes lignes comment tu as fonctionné?
Ben, j'ai suivi ton protocole, ce qui est nouveau pour moi. Donc, on a commencé par faire le protocole Jason, donc de ceux qui sont coachés par tes services
Laisse
doivent
dire.
connaître. Donc, on avait ça tranquillement. Donc, je l'ai commencé en ski de fond, puis du coup, ben, après, je l'ai fini en course à pied en bosse assez raide, donc au Noirmont, pour ceux qui connaissent, vraiment une montée sèche de 500 mètres de dénivelé sur moins de 2 km. Donc, c'est vraiment de la bosse raide. Et puis, sinon, c'était surtout ça. Et après, on calait les séances longues. En gros, c'était souvent ça. C'était une séance du protocole Jason dans la semaine, puis une séance longue le week-end. Et puis après, on s'adaptait autour, quoi.
Les Jason, qui est un protocole de montée, mais qu'on avait adapté en ski, évidemment. Et c'est vrai que l'hiver, c'est dur, même pour moi en tant que coach et les gens qui veulent skier aussi, de savoir que la progression va être interrompue par le manque de neige, en tout cas dans les protocoles, mais il faut s'adapter. Et par exemple, juste pour la parenthèse, tu étais sur ta lancée de la Saint-Élion que tu avais terminée au mois de. C'est novembre ou décembre, je sais plus.
Début décembre.
Début décembre. Donc tu as eu de la continuité par rapport à ce que tu avais fait.
J'ai jamais vraiment arrêté. En gros, la Saint-Élion, c'est tombé la semaine où la neige est tombée chez nous. Donc, en gros, j'ai enchaîné avec le peu de ski qu'on a pu faire cette année en décembre, quoi.
Ok. Et on va rentrer dans le vif du sujet du dernier cycle d'entraînement que j'ai regardé avant que tu arrives. Donc, tu as eu 6 séances d'intensité qui représentent 21% de l'entraînement, 3 sorties longues pour l'instant en course à pied qui représentent 11%, une séance de renforcement musculaire qui représente 4%, on y reviendra, 6 séances faciles, 20%, et 12 séances modérées, 43%. Donc, c'est pas une répartition 80-20 qui est standard et habituelle. Donc, comment ce mois de mars, là, justement, qu'est-ce que tu as fait en termes d'intensité? Pourquoi tu as fait moins de renforcement? Et tu peux revenir sur ce que tu avais fait avant. Juste pour expliquer, en fait, l'idée du podcast, c'est que les gens se rendent compte de comment. Que plein de gens sont toujours en train de s'adapter par rapport à plein de contraintes. Donc, explique-nous un peu tout ça.
Bon, déjà, une semaine d'entraînement avec le programme, parce que ça se commence déjà. Je regarde le programme le dimanche et je dis, bon, comment je vais pouvoir changer ce qu'il a fait, parce que, en fonction des contraintes que j'ai. Et je regarde un peu, je regarde surtout quand c'est que tu m'as mis la séance d'intensité. Je regarde un peu ce qu'il y a autour et j'essaie de garder ça. J'essaie de garder au moins l'intensité, les deux séances qui sont autour de ces trois séances de la semaine, de les faire à peu près dans cet ordre-là. Donc, en gros, si tu me dis que si tu me la planifies le jeudi, et que le jeudi c'est vraiment chaud pour moi parce que je dois ramener les enfants à l'école ou que j'ai un rendez-vous à 15h00 et que je dois être retourné au boulot à 15h00, là je vais peut-être le bouger plus ou moins un jour et voilà, et décaler le jour de repos. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça que je fonctionne. Je regarde d'abord la séance d'intensité, puis après les autres séances, je les décale aussi en fonction du jour où j'ai choisi de faire ma séance d'intensité. Et ce mois-ci, tu m'as mis, vu que je prépare un marathon, tu m'as mis une séance d'intensité, c'est de l'intensité à plat avec un protocole ouais, quand même assez rapide, assez exigeant. Donc, ouais, j'essaie de me caler sur cette séance en essayant de pas trop de bien m'alimenter avant d'y aller, de la faire correctement et puis bien faire le repos, puis pas faire trop fort la veille et le lendemain, quoi.
C'est vrai que pour l'instant, en début de prépa, il y a le marathon, c'est Genève, hein, qui est le 5 mai, où je ne sais pas encore si tu veux courir vite ou avec ton épouse,
Non,
qui court déjà assez vite.
ce sera modéré plus quand même.
Ouais.
On n'a pas s'endormir. Ouais, normalement, c'est pas pour battre mon record que j'y vais. C'est vraiment pour accompagner Marine. Ouais.
Sachant que Marine avait fait 3,43 pour son premier à Lyon, donc ce n'est pas non plus la promenade de santé, mais
Oui,
ouais.
il va falloir s'entraîner un petit peu.
Mais donc, si on parle justement d'entraînement, là, on est dans une phase où l'intensité, c'est ce que tu fais en autorégulant, elle est programmée que surtout sur la fraîcheur, et c'est encore pas une phase où on va aller chercher de la fatigue sur la sortie longue ou l'intensité, parce que c'est une phase de fantation, et tu as alterné entre le protocole Zephyr et un petit peu d'allure spé. Si tu veux revenir un petit peu sur Zephyr, je la fais très simple. C'est un protocole qui est calibré au RPE, à la sensation. Donc, comment toi tu vis le truc, par exemple?
Ah, ça, c'est difficile de faire déjà des allures bien précises parce que nos tours chez nous, ils habitent un peu de bosse. Donc, moi, j'ai quand même mis des fourchettes de vitesse assez larges en fonction du RPE. Donc, en gros, pour le Zephyr, c'est des répétitions RPE 5, 6, 7, c'est ça? Et donc, en gros, quand j'ai calibré sur ma montre, j'ai mis en gros En gros, entre 12,5 et 13,5 pour RPE 5, entre 13 et 14 pour RPE en kilomètre-heure. Entre 13 et 14 pour RPE 6, et puis entre 13,5 et 15 pour le RPE 7. Je pense même que c'est presque trop vite le RPE 7, dès qu'il y a, si c'est pas parfaitement plat. Ça me fait vraiment. Je me demande, d'accord, je vais devoir faire plus de 5 minutes, plus de 5, 6 minutes RPE 7. Je me demande quand je vais aller tenir s'il y a à peine de bosse. Pour moi, c'est exigeant. Je pense qu'il y en a pour qui ces vitesses, c'est facile. Mais moi, je sais que c'est assez dur pour moi.
Ouais, c'est exigeant pour tout le monde. Et justement, comment, parce que je parle souvent de l'entraînement à la sensation, comment t'arrives à te réguler dans les intensités ou d'une séance à l'autre, hein, vu que c'est progressif, est-ce que tu arrives à affiner tes sensations ou tu n'y arrives pas encore
C'est compliqué après je sais je, enfin, d'expérience je sais les vitesses où je suis bien ou pas, je sais les ça je, ça, je les connais. Après le affiner, oui, c'est si là je vais peut-être mettre à peine moins vite mon RPE 7 pour les coups. Je voudrais aussi 3 fois 6 minutes RPE 7, ça c'est possible que ça enfin, où je serai plus en bas de ma fourchette, mais sinon c'est Ouais, non, ça bouge pas trop. J'ai vraiment mis pour qu'il y ait quand même une accélération, mais ouais, c'est plus de l'expérience, c'est pas de la sensation d'une séance à une autre, c'est plus de l'expérience de ce que j'ai fait depuis que je cours, quoi.
Et donc toi, parce que chaque personne fait différemment. Par exemple, moi, quand je le fais, moi, j'ai aucune fourchette d'allure, je le fais que à la sensation. Toi, dans ton cas, pour objectiver la sensation, tu te mets quand même une fourchette d'allure qui t'aide à le faire.
Oui, parce que au début, je le faisais sans ça, mais après, je me rendais compte que finalement, je regardais ma montre, parce que je voyais, parce que si je fais pas ça, je vais me retrouver beaucoup trop vite sur le RPE, sur la première, je vais me retrouver beaucoup trop vite, et puis après, vu qu'il faut quand même accélérer, ben, je n'arriverai pas à tenir la dernière.
Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Chacun s'adapte comme il
Oui.
veut. Pourtant, dans ton caractère, tu es quelqu'un qui aime bien aller au casse-pipe, la fameuse séance mentale dans certains temps. Et des fois, on apprend en allant au casse-pipe. Et Juste un autre
Moi,
point.
j'ai vu, j'ai fait de l'intervalle en côte une fois que tu m'avais programmé. Les cailloux, je les ai mis, ils ont descendu petit à petit au fur de la séance. Hein. C'est sûr que la distance était de moins en moins longue à chaque fois. C'est sûr. J'étais gourmand sur la première répétition.
C'est en étant gourmand qu'on apprend hein,
C'est ça.
aussi. Et sur le renforcement, j'allais y venir parce que bien, il y en a de programmés sur un protocole, peu importe lequel, c'est Atlas en ce moment. Comment ça se fait que, et c'est pas un reproche, c'est une question d'explication, que bon, en janvier, février, on n'avait pas plus que ça, et que là, en mars, par exemple, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Comment toi, tu l'utilises, le renfort?
Alors, je m'étais promis de faire une fois par semaine un protocole que tu m'avais fait, voilà, qu'on avait vu ensemble, qui était bien adapté pour moi. Et je me faisais bien, je m'y tenais sans problème. Mais le problème, c'est que j'ai eu, je pense, une tendinite au bras quand il y a un petit mois. Donc, j'ai complètement arrêté parce que ça, ouais, c'est pour ça que j'arrivais plus à plier le. J'arrivais plus à plier le bras complètement. Je me suis dit peut-être que c'était un signe que j'arrête de tirer dessus parce que j'ai pas beaucoup de force dans les bras. Donc je pense que le mouvement sur plus sur mon bras gauche, mon bras faible, les mouvements avec la charge qui est lourde pour moi, qui est pas lourde pour les crossfitters. Pour moi, 12 kilos à bout de bras sur mon bras gauche, c'est beaucoup. Et donc je pense que j'ai un peu trop tiré. Et ça, donc j'ai arrêté. Je vais peut-être reprendre la semaine prochaine. Je vais voir ce que ça dit parce que j'ai pas envie de. Ouais, ça me faisait mal, quoi. Du coup, donc j'ai pas m'arracher le bras. Je me suis dit, bah, je fais autrement. Je fais toujours un peu de renforcement le matin, mais c'est plus de la mobilisation que d'exercice de renforcement. C'est 10 minutes le matin comme ça de planche plus en prévention santé pour le dos que pour la performance, pour être, c'est pas pour être plus solide en course, c'est plus pour pas avoir mal au dos, voilà quoi.
Et du coup, tu as remplacé cette séance temporairement de renforcement que tu plaçais dans la semaine. L'idée qu'on avait, c'était aussi de se dire, c'est un peu entraînement libre et tu la casses comme tu veux. Et du coup, tu l'as remplacé par une séance de course à pied.
Oui, je pense plutôt lazy run. En général, quand tu mets entraînement libre, je fais 30 minutes. Je fais 30 minutes de course à pied vraiment tranquille. Ça me permet d'y aller avant le travail. Donc, 30 minutes, ça va bien. Ça me permet de faire autre chose le midi. Ouais, la séance, c'est un peu le joker. Hein. C'est bien ça.
Ok, et puis juste, on a commencé les sorties longues, pas trop, et dans ton expérience, tu les abordes comment est-ce que tu t'occupes de l'allure? Est-ce que tu t'occupes d'aller chercher en ce moment un dénivelé ou un profil particulier, ou tu es plutôt sur un truc un peu plus libre?
Non, bah là, c'est plus. Il y a deux choses que je regarde. C'est comment j'ai pour la caler niveau temps. Donc, en général, par exemple, un truc clair. Le samedi dernier, je suis allé à la patinoire avec les enfants. Puis, pour pas que ça perde trop de temps, bah, je suis rentré de la patinoire en courant. Puis voilà. Mais là, j'essaie de ne pas mettre trop de dénivelé parce que de un, j'aime bien faire des c'est bien de faire des kilomètres, je pense, quand même. J'aime bien courir un peu courir en ce moment. Et puis surtout que dès que tu vas un peu haut, il peut y avoir un peu de neige et tout. Donc c'est un peu. C'est moi, j'aime pas trop. Enfin, moi, ça me saoule de courir dans la neige. J'aime autant courir. J'aime mieux courir dans la boue que dans la neige, tu vois. Donc,
Douglas Impignon.
ouais, je fais mes séances assez faciles. Je me débrouille pour que les séances soient plus longues en temps, quoi. Puis voilà, on fait ça le dimanche, ça se cale avec le programme. Tu vois, lundi prochain, je fais la sortie longue. J'ai une réunion de famille dans la 40 bornes. Ben, je vais y aller en courant. Ça fait ma sortie longue, ça fait un truc, ça change les parcours. Faut que j'essaie de faire ça, changer un peu, faire des nouveaux parcours, des choses comme ça. C'est ça qui me motive à faire la sortie, donc changer un peu, quoi.
Et puis c'est vrai que aussi ces petites capsules sont pour que les gens puissent s'y retrouver. Et justement, même si on essaye d'anticiper la programmation avec les contraintes perso, notamment la sortie longue, elle est prévue ou des choses comme ça à l'avance, c'est sûr qu'il y a toujours une adaptation par rapport au programme qui est fait par l'entraîneur la plupart du temps chez des gens. Et par exemple, toi, dans quelle mesure t'estimes que si tu mettais une note de 1 à 10, t'estimes suivre le programme d'entraînement, par exemple?
Je dirais 7, je pense. Je pense. Ouais, 7, je pense que je suis à 7 sur 10 parce que, oui, ça dépend. Après, dans les durées, je suis souvent un peu moins, je suis souvent un peu moins longtemps que ce que tu me mets parce que voilà, c'est pour être rentré à l'heure, pour reprendre le travail. Mais dans l'idée, ça y est, hein, c'est pas hein, que tu, quand tu mets 1h15, 1h30, si je fais 1h15 au lieu de 1h30, c'est pas, hein, je vais pas me rendre malade. Pareil, des fois, si tu mets 1h15 que j'ai allongé, que je mets 15 de plus, c'est pas, je m'en rends pas malade. Puis, non, j'essaie de mettre au moins le même nombre de séances que tu m'as mis, sauf vraiment en grosse absence. Je peux vraiment, voilà, c'est vraiment là, j'ai pas de minute pour moi, mais sinon, j'essaie quand même de, si tu as mis une séance, de la faire. On avait vu dès le début, le nombre de séances que je voulais par semaine. Donc voilà, j'essaie quand même de me tenir aux 5 séances par semaine, ce qui est un peu plus que je faisais avant quand même.
Et donc globalement, dans l'esprit, en fait, tu suis justement l'esprit de la programmation et tu fais tes petits ajustements parce que, évidemment, au jour le jour, tu es obligé d'adapter. Un coach ne peut pas être au jour le jour derrière quelqu'un.
Exactement, hein, quand je te disais là. Mais là, ouais, c'est exactement ça. C'est qu'il faut, si, ouais, si j'ai un rendez-vous le jour où tu m'as mis mon intensité ou que voilà, bah, je la décale, puis on fait autrement. Mais c'est pas. Oui, il faut vraiment. Pour moi, c'est plus l'architecture globale de ce que tu me proposes qui est intéressant. C'est pas, pour moi, c'est pas intéressant que ce soit le mardi ou le jeudi. C'est pas, pour moi, c'est pas important. Des fois, même le. S'il faut la décaler de 2 jours, la décaler de 2 jours, là, c'est pas de souci.
Et c'est très bien, justement. Il faut être capable de s'adapter. Et cette première capsule était, on n'a pas rentré dans le détail de l'entraînement, c'était déjà sur l'adaptation à l'organisation, que les gens se rendent compte que on est obligé de s'adapter. Et toi, ça te fait 5 séances par semaine en moyenne.
C'est ça, 5 séances, 5 séances, je m'y tiens à peu près. Des fois, je fais 6. 6 de temps en temps, mais c'est plus souvent 5. Le lundi, en général, c'est off. Sauf si vraiment je vois que ça va être compliqué de caler, que j'ai déjà 2 jours où je peux pas faire dans la semaine, où je sais que je peux pas faire 2 jours, je change, j'y vais le lundi. Mais sinon, le lundi, c'est off, parce que souvent le lendemain de la sortie longue, donc c'est bien. Ça me permet aussi de me reposer, de faire d'autres choses. Et puis, voilà. Puis après, les autres jours de la semaine, eh ben, il y a un jour de repos, ben, peut-être le jour où je vais aller faire mes courses ou compagnie, quoi, la vie, quoi.
La vie normale qu'on a tous.
Exactement.
Et justement, en conclusion de cet épisode qui était sur le thème plutôt de l'organisation, même si on a parlé un peu d'entraînement, en résumé, qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui suivent un programme ou qui n'en suivent pas d'ailleurs? Parce que toi, avant, tu n'en suivais pas, maintenant, t'en suis un, en termes d'organisation et d'adaptation.
Bah déjà, il faut déjà essayer d'y aller le plus possible, quand même, malgré tout. Faut quand même essayer d'en faire, et puis essayer de faire de la. Ouais, essayer de faire le plus possible. Moi, j'avais toujours pensé sur varier les terrains et varier les distances. Et je pense que déjà, c'est ça le conseil de base que je peux donner. Ouais. C'est vraiment varier les distances, varier les terrains. En fonction de ces de, ouais, de des occasions, quoi. Comme je te dis, si t'as un endroit, c'est rien, tu vas au garage à Lons, ben tu dis, le gars, t'as 2 heures à perdre, ben tu cours 2 heures à Lons, ça va te faire travailler des bosses que t'as pas l'habitude de faire, des durées. Moi, je pense qu'il y a rien de il y a rien de pire que de faire toujours le même tour. Parce que ton corps ne s'adapte pas, en fait. Si tu fais toujours la même bosse, même si elle est super dure, ça va te donner la caisse pour une bosse de 1000 mètres. Mais après, si ta course, c'est 4 bosses de 300, ben, tu vas être un peu. Tu ne peux pas savoir à quelle vitesse y aller. Donc, je pense que ouais, c'est vraiment. Pour moi, c'est se servir son emploi du temps pour varier les distances, les durées, les profils, et du coup s'entraîner à surtout vraiment tout type de terrain. Du coup, je pense que ça provoque de bonnes adaptations, quoi.
Ah, c'est très vrai. Je l'ai pas fini, mais je suis en train d'écrire un article sur le sujet, justement, et sur le fait d'affiner ses sensations sur le terrain. Et je te rejoins totalement. Moi, j'ai visité Oslo, Stockholm en courant. C'est juste génial. J'ai aussi visité Mannheim. C'est moins joli. J'ai déjà visité des villes beaucoup moins jolies. Mais en tout cas, profiter de cette occasion en disant, mais peut-être pas en se pressant, en disant, il faut absolument que je fasse 2 heures, mais en disant, j'ai 2 heures devant moi, bah tiens, j'en profite pour aller visiter. Et c'est vrai que c'est important, c'est de l'optimisation, rentrer du garage en courant, des choses comme ça. Et souvent, j'ai certaines personnes que je coach, moi, sur une sortie longue, j'ai jamais de consigne, à part la consigne d'intensité, parce que je trouve que c'est aussi aux gens de se dire, bah oui, bah, je prépare ça, si je prépare un marathon, ou si je prépare l'UTMB, ou si je prépare un trail roulant. Je vais varier les terrains, mais je vais plutôt aller chercher ça parce que j'ai envie, parce que ça me convient bien. Et je trouve que l'interprétation doit se faire par les gens et pas par le coach.
Oui, puis en plus, ouais, par exemple, là, en ce moment, je veux quand même plus de trail que de route, mais par contre, vu que je sais que j'ai un marathon dans 2 mois, dans mes tours de trail, je vais faire plus de. Je vais trouver des fois des traversées où il y a un peu de route, où il y a genre 2 km de route. Ça, je sais que tu vois, ça permet de changer, ça permet aussi de se préparer. Faut un peu penser comme ça, il faut essayer de se dire, oui, de réfléchir un peu à l'avenir. Qu'est-ce que tu prépares? Et puis en fonction de qu'est-ce que tu prépares, ouais, glisser un peu dans tes séances ce dont tu as besoin, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas non plus trop dénivelé parce que je sais que la première grosse course, ce sera un marathon. Donc voilà, ce sera à courir. Puis après, même dans mes séances longues, des fois, je me dis, ouais, je fais 1 km un peu plus vite pour voir comme ça va, avec un peu de fatigue, voilà, pour des sensations, ça. Faut être un peu, voilà, faut être un peu opportuniste des occasions qui se présentent, quoi.
Ouais, bah, tu sais, sur un autre sujet, il y a pas longtemps, j'ai écouté Cyril Jeune de Volod Allen. C'est vraiment sur un autre sujet dans le Let's Trail podcast. J'ai bien aimé ce qu'il disait. C'était sur les godas, sur la cadence de pas, sur tout ce que tu veux. Mais il disait qu'il faut toujours partir du principe que la personne que tu as en face de toi, elle est plus intelligente que toi, dans le sens où bah, les personnes qui s'entraînent, même si tu es coach, même si tu fais ce que tu veux, d'ailleurs nous on s'entraîne aussi en tant qu'entraîneur en général, elles ont une capacité d'adaptation et d'intuition sur ce qu'elles vont avoir besoin de faire, ont envie de faire sur le moment. Et ça, c'est important. C'est pas parce qu'il y a un... Ça pourrait être le résumé, mais c'est pas parce qu'il y a un programme. Le programme, c'est l'application de la stratégie, mais encore une fois, il y a une interprétation, et c'est pas pour autant que ça doit être robotique et qu'il faut respecter à la minute près et qu'on doit mettre des consignes à chaque séance, en tout cas de mon point de vue.
Totalement d'accord.
Oui, bah surtout toi, oui.
Je
Donc ceux qui connaissent Gilles, ils le savent. Hein. Mais je suis même surpris que tu suives autant que ça le programme pour l'instant.
bah si, mais quand même, c'était pas le but. Si je fais l'effort de prendre un entraîneur, c'est pour quand même faire un peu mieux que ce que je faisais avant. Si c'était pour faire exactement la même chose, pour moi, ça sert à rien. Après, c'était pas juste j'achetais ton superbe livre et ça suffisait. Si c'était juste pour savoir quelle intensité si quelle intensité j'avais fait, si c'était juste pour choisir les intensités, avec le livre ça suffit. Mais je pense quand même d'avoir une programmation, ça permet quand même d'avoir une certaine liberté de penser et surtout de penser à d'autres choses, en fait. Là, je suis plus sûr. Ça me permet un peu de plus réfléchir à mon alimentation, par exemple, à comment je m'entraîne. C'est un de plus value, quoi.
Bah, dans le coaching, il y a une part de décharge mentale pour les gens qui est indéniable. Et je le dis des fois en exagérant, mais certaines personnes, je suis plus secrétaire pour organiser leur agenda. J'exagère un petit peu hein, que coach, mais ça a aussi son importance, hein, justement. Et bon, je ne sais pas si c'est de la sorcellerie, comme tu disais, mais tu n'as encore pas eu tout. On est qu'au début, donc tu n'as pas eu tous les trucs mis là. Tu sais
J'ai
très bien à
peur,
quoi ça ressemble, tu
j'ai
sais quoi
peur,
ça ressemble par
j'ai
moment.
peur, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai un peu peur sur ce qui m'attend après.
Ouais, puis tu as déjà discuté avec des gens que je coach,
Oui,
donc il y a deux, trois sorcelleries.
c'est ce qui m'attend dans quelques mois.
Ouais. Et d'ailleurs, on va travailler sur ton mois prochain à la fin de l'enregistrement de cet épisode, parce qu'il faut bosser. Eh ben, merci, Gilou.
Merci à toi, Nicolas.
Ouais,
Et au mois
et
prochain.
ouais, au revoir à tout le monde. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.